Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Regards croisés vous propose dans cette nouvelle émission de vous intéresser à l'énergie éolienne. L'éolien est aujourd'hui bien implanté dans plusieurs pays de l'Union européenne, comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou encore l'Espagne. L'Union européenne représente d'ailleurs les deux tiers de la production d'électricité par énergie éolienne, même si les premiers producteurs mondiaux sont les États-Unis depuis 2009, avec ses turbines fortement implantées en Californie. Cette énergie se développe aussi au Maroc, en Tunisie, en Chine, qui est le deuxième producteur derrière les États-Unis, et l'Inde. Nous en reparlerons au cours de cette émission. Et la France, me direz-vous ? La France cherche aussi à développer son parc éolien, ceci dans le cadre de l'Union européenne qui fixe la production d'énergie verte à 21% de la production nationale d'électricité. Mais plusieurs obstacles semblent freiner les projets de parcs français. Le public, tout d'abord, et ce n'est pas nouveau, ne veut pas d'éoliennes sur son terrain ou trop proche des côtes. Et puis surtout, 80% de la production électrique française provient de nos centrales nucléaires qui ne rejettent pas de CO2. Remplacer une partie du nucléaire par de l'énergie éolienne ne serait pas forcément cohérent dans le sens où les éoliennes ont besoin, en complément de leur fonctionnement, de centrales thermiques qui peuvent produire du CO2. Alors l'éolien, une fausse bonne idée, c'est ce que nous allons voir tout de suite en compagnie de nos deux invités et au regard des exemples des pays étrangers. Gilbert Ruel et Michel Combarnous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Gilbert Ruel, vous êtes membre fondateur de l'Académie des technologies. Vous avez présidé la commission énergie et changement climatique pendant 8 ans. Vous avez fait toute votre carrière en tant qu'ingénieur chez Alstom. Michel Combarnous, vous êtes professeur émérite à l'Université Bordeaux 1 et professeur associé à l'Université de Gabès en Tunisie. Vous êtes également membre fondateur de l'Académie des technologies et correspondant de l'Académie des sciences. Alors messieurs, commençons par quelques chiffres, s'il vous voulez bien. Michel Combarnous, je crois que vous avez des chiffres sur la production d'électricité éolienne. Alors quels sont les pays qui produisent beaucoup d'électricité par énergie éolienne ?
Alors si on prend les chiffres récents, enfin ceux qui sont sortis fin 2010 à peu près, et puis des petites estimations, des choses comme ça qu'il faut vérifier, on trouve en tête les États-Unis, je crois que vous l'évoquiez, et en seconde position, on voit apparaître la Chine, juste devant l'Allemagne. Ensuite, on a l'Espagne et l'Inde qui montent en puissance. Et puis, je vais vous contredire un tout petit peu. Vous évoquiez l'Europe avec deux tiers. Le développement un peu partout dans le monde de l'éolien a fait que maintenant, on peut considérer que l'Europe est plutôt la moitié qu'aux deux tiers de l'ensemble de l'éolienne. Les chiffres tout à fait récents de cette dernière année, quoi.
Donc, les choses évoluent très, très vite.
Hein. Avec une montée en puissance très forte, on considère que la puissance des éoliennes installées double pratiquement tous les 3 ans. C'est le chiffre qu'on a depuis 10 ans.
Et alors, vous me disiez en préparant cette émission, et on va en discuter au cours de cette émission, que l'énergie éolienne pourrait supplanter l'énergie nucléaire à terme d'ici quelques années.
On pourrait le présenter un petit peu autrement, mais en disant que finalement, en considérant qu'une éolienne, je vais assez vite quand même, hein, tourne, mettons 2500 heures dans l'année, qu'un réacteur nucléaire marche 7500, simplement pour faire un calcul simple. Quand on compare la puissance d'une énergie nucléaire à une puissance éolienne, il faut diviser la puissance éolienne par 3, comparer quoi. Et à ce petit jeu, on s'aperçoit que l'énergie éolienne actuellement installée ressemble à 60-70 réacteurs, alors qu'on en a 400 ou 450 de par le monde. Donc finalement, c'est avec les règles que j'évoquais de montée en puissance, on voit monter, les deux choses arrivent un peu du même ordre de grandeur, ce qui ne veut pas dire que l'un doit se substituer à l'autre.
Et pourtant... Revenons au problème français et après nous étendrons aux autres pays. Et pourtant, la France semble être à la traîne. Pourquoi, Gilbert Ruel ?
Parce qu'elle est en avance en nucléaire. Le problème...
C'est l'ancien ingénieur chez Alstom qui parle.
Mais la spécificité française, c'est d'avoir 90%, et non pas 80%, de son énergie sans production CO2, parce qu'il y en a 80% nucléaire et 10% hydraulique. Voilà. Et cette spécificité, à ma connaissance, elle n'existe que dans quelques rares autres pays, comme la Suède. Il y a très peu de pays qui sont dans ce cas. Or, si vous avez lu mon rapport 10 questions sur l'énergie éolienne, je considère que l'énergie éolienne a une certaine logique pour les pays dont la production électrique est extrêmement carbonée. le Danemark carboné à 80%, ils ont ces centrales thermiques, l'Allemagne à 60%, l'Espagne à peu près dans les mêmes eaux. La spécificité française fait que pourquoi installer de l'énergie éolienne qui, certes, ne produit pas directement de CO2, mais elle en produit indirectement par les compléments qu'on est amené à lui faire en backup thermique. Pourquoi, alors que c'est une énergie qui coûte au moins 8 centimes d'euros par kilowattheure, pourquoi l'installer pour remplacer quoi ? Le nucléaire et l'hydraulique fabriquent aujourd'hui l'énergie électrique en France à environ 3 centimes d'euros par kilowattheure et n'émettent pas de CO2. Donc, c'est une particularité française. Je comprends que les Danois ou les Allemands installent des éoliennes puisqu'ils ont une énergie très carbonée. Alors, ils installent une énergie éolienne qui vaut 8 centimes d'euros par kilowattheure pour remplacer une énergie charbon qui vaut 6. C'est pas 3, c'est 6. Donc l'écart est plus faible et 6, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne compte pas le coût spécifique des émissions de CO2. Si demain, le CO2 est taxé, à ce moment-là, les deux coûts vont se rapprocher. Donc, je ne dis pas que les Allemands ont tort de faire de l'énergie éolienne, je dis que les Français ont tort de vouloir copier alors qu'ils ont déjà une énergie propre.
Donc, chaque pays, on l'aura compris, a sa spécificité, mais vous parlez de remplacer. Est-ce que, dans le cadre de l'énergie éolienne, on parle de remplacement d'une autre énergie ou est-ce qu'on parle de complémentarité, à savoir de bouquet énergétique ?
Bon, aujourd'hui, je crois que si on développe l'énergie éolienne, c'est parce que la nation n'a pas fait suffisamment à temps des investissements supplémentaires en énergie nucléaire. Il aurait fallu construire 2 ou 3 réacteurs de plus. Mais comme on n'en a pas fait, qu'il s'est passé un long espace depuis le programme français, il s'est terminé dans les années 90. Hein. Et pendant ce temps, comme on n'a pas investi et qu'il y a progression de la consommation d'énergie électrique, aujourd'hui, on se trouve à devoir accepter des énergies renouvelables comme l'éolien et le photovoltaïque qui sont achetées par obligation d'achat à part EDF à des tarifs qui sont de l'ordre de 8 centimes d'euros pour l'éolien et de 60 à 40 centimes, ça dépend des conditions d'installation, pour le solaire photovoltaïque. Et parce qu'on n'a pas fait à temps les investissements nécessaires en nucléaire. Et je dirais aussi que par un certain laxisme, parce que l'investissement nucléaire, c'est une décision nationale à prendre par le gouvernement avec une dépense par EDF. Là, on laisse la place à des investissements privés en éolien et en solaire photovoltaïque en obligeant le producteur national, le distributeur national de l'électricité qui est EDF à acheter cette énergie à ces tarifs qui sont très élevés. Donc, on est dans une situation un peu anormale, si vous voulez, à cause d'un retard qu'on a pris.
Alors, Michel Combarnous, est-ce que l'aide de l'État pour payer une partie du coût de cette énergie éolienne, est-ce que ça fausse l'exploitation de l'énergie éolienne, selon vous ?
D'abord, je dois dire, parce que même si nous sommes censés débattre, globalement, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gilbert pour la situation française. Ça, c'est clair. Ce que je dis par contre souvent, et ce qui nous interpelle par rapport à ce qu'on pourrait fabriquer de par le monde, vendre, etc., c'est que la situation mondiale, il faut quand même la rappeler, on est presque 200 000 habitants de plus par jour, et à consommation individuelle à peu près constante, ce qui est le cas depuis 1973, il faut que chaque jour, on mette de par le monde 400 à 500 mégawatts installés nouveaux. Ce qui explique la montée en puissance rapide d'un certain nombre de formes de production d'énergie, dont l'éolien. Et ça rejoint bien ce que dit Gilbert, parce que si on veut aller vite et un peu en panique en quelque sorte, bah des installations comme des éoliennes, c'est quand même assez rapide à mettre en place par rapport à des réacteurs qui sont en plus avec toute une série d'évolutions techniques maintenant où on voit bien qu'il y a toute une série de progrès à faire. Donc ça, je crois que c'est très clair.
C'est pour combler un manque de réactivité.
Pour aller le plus vite possible, et je crois que ce n'est pas du tout choquant. Et comme de toute façon, le bouquet énergétique sera très multiforme, de l'hydraulique, au photovoltaïque, que Gilbert l'évoquait, à l'éolien, au solaire thermodynamique, dont on ne parle pas toujours souvent. Il y a de la place pour l'éolien et cette place, elle est là. Mais je ne suis pas un acharné d'éoliennes couvrant la France par rapport à d'autres choses. Parce que sinon, ce serait un peu aberrant. On a ce poids nucléaire qui est important et qui ne va pas diminuer instantanément.
Alors, vous êtes d'accord tous les deux sur ce point. L'énergie éolienne n'est pas forcément à développer en France. Pourtant, il y a des parcs qui sont en projet de construction, notamment des parcs offshore. Alors, est-ce qu'il faut poursuivre ces projets ou au contraire, est-ce qu'il faut les laisser de côté ? Gilbert Ruel.
Le développement de l'éolien, comme le développement du photovoltaïque en France, il est motivé de manière très importante par le niveau des subventions. On a observé une chose dans le monde entier, c'est que le jour où les subventions sont coupées, l'éolien disparaît. Ça a été le cas au Danemark. Le Danemark a coupé les subventions de l'éolien en 2007, je crois, et il n'y a maintenant que des renouvellements. Bon, ça s'est passé aux États-Unis aussi à une certaine époque. Ce que je reproche en France à ce développement de ces deux types d'énergie renouvelable, mais c'est surtout le photovoltaïque d'ailleurs, c'est d'avoir ouvert la porte à la spéculation financière. Vous avez des citations qui ne sont pas de moi. Si vous prenez quelqu'un qui passe pour être extrêmement intelligent, comme M. Jacques Attali, il a une certaine réputation d'intelligence. Voilà ce qu'il a écrit le 8 décembre 2009 dans l'Express. « L'impérieuse nécessité de réduction des émissions de gaz à effet de serre conduit parfois à des politiques absurdes. » Je ne le prends pas à mon compte, hein. Je cite Jacques Attali. « Résultat de la précipitation d'hommes politiques pour qui l'écologie représente d'abord des voix et de l'avidité d'entreprises pour qui le vert représente surtout des profits. Ainsi, du développement des éoliennes, considéré aujourd'hui comme une source incontournable d'énergie renouvelable, au même titre que le solaire. Au total, c'est donc d'une énergie très envahissante, attirant toutes les cupidités. Si l'Allemagne a atteint les limites de ce que son territoire peut supporter, la France est partie dans le même délire. »
Donc, on agit et ensuite on réfléchit. C'est ce que vous semblez nous dire.
Bien, l'Europe a défini la politique des 3-20. 20% d'économie d'énergie, ceci pour une date, je crois que c'est, c'est 2020 ou 2030, quelque chose comme ça. 20% d'économie d'énergie, 20% d'énergie renouvelable et moins 20% d'émissions de CO2. Ça fait un peu chinois, cette méthode les 3-20 comme les 4, etc. Bon, il suffisait de dire, si on croit au problème climatique, il suffisait de dire moins 20% d'émissions de CO2. J'aurais même très bien compris qu'on dise moins 30. Et on y serait parvenu en laissant la liberté à chaque pays de s'organiser en conséquence. Mais pourquoi imposer 23 même en France % d'énergie renouvelable dans la production électrique? Ce n'est pas un critère suffisant qu'elle soit renouvelable, puisque l'éolien, comme vous l'avez remarqué dans mon rapport et comme tout le monde le sait, il ne fonctionne que 25% du temps. Bon, Michel a dit 30, on ne va pas pinailler, un tiers ou un quart. Pendant le reste du temps, si on en a besoin, il faut apporter un soutien au réseau qui... Alors qu'est-ce qu'on a comme soutien? On n'a que le thermique, les turbines à gaz ou les centrales charbon. Alors, les Allemands, ce n'est pas pareil, parce que de toute façon, comme ils en ont 60% ou 80% pour les Danois qui marchent en permanence, il suffit, quand le vent souffle, d'en baisser quelques-uns, et comme il y a toujours des réserves de centrales thermiques, parce qu'ils en ont beaucoup, et quand le vent manque, de monter la production thermique. Mais en France, où on n'a que 5% de centrales thermiques à charbon pour faire la semi-point ou la semi-base, appelez-la comme vous voulez, quelques petits, quelques l'ordre de 1000 heures par an, ce n'est pas du tout pareil.
Alors Michel Combat-Nous, justement, sur cette question de l'intermittence, est-ce que c'est encore valable de la part des personnes qui ne sont pas forcément très virées sur l'énergie éolienne?
Oui, je voudrais dire d'abord que la citation d'Attali était intéressante, mais je pense qu'il est plus pertinent quand il parle de la régulation des taxis en région parisienne ou ailleurs que sur ce sujet-là. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel. Je pourrais en débattre avec lui d'ailleurs quand il veut. Puisque je l'ai dit, après tout, je signe. En ce qui concerne le problème qui nous préoccupe, on a effectivement raison. Écréter les monotones de consommation, expression un peu technique pour dire avaler un peu les pics de consommation, ça se fait déjà en France avec des turbines à gaz. Et donc effectivement, parce que c'est simplement là que l'investissement est le plus léger par rapport à un réacteur nucléaire qui ressemble à un porte-avions, même si cette image peut être un peu inquiétante quand on parle des porte-avions français, mais ça c'est encore une autre histoire. Il y a beaucoup d'histoires finalement dans ce beau pays. Et finalement, donc je crois que là-dessus, il faut être effectivement assez prudent. Je ne suis pas en contradiction avec Gilbert, d'ailleurs je me permets de te dire que je n'ai pas dit 30%, j'ai dit 25, le chiffre que tu as repris tout à l'heure.
Ah bon, j'avais donc, pas compris alors.
Donc nous sommes complètement en phase là-dessus. D'accord. Donc c'est vrai que c'est une spécificité française. La question, c'est qu'il faut que cette spécificité ne nous conduise pas à trop d'aveuglement par rapport au développement de l'éolien dans l'ensemble du monde. Je pense qu'il est trop tard pour que nous ayons des entreprises très puissantes dans l'éolien, les machines éoliennes. On en trouve 30 ou 40 dans le monde. Le cas du Danemark qu'a cité Gilbert est un cas assez intéressant, mais je crois qu'il a un côté assez particulier. Je ne serais pas capable de le commenter, mais le Danemark avec ses importations de charbon, il y a toute une histoire très compliquée sur l'énergie au Danemark que je ne me permettrai pas de commenter. Mais pour le reste, moi je crois réellement que l'éolien va se développer massivement dans beaucoup de pays, mais évidemment avec les contraintes que nous avons évoquées.
Donc Gilbert Ruel, vous avez parlé rapidement du coût d'énergie éolienne. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la Chine, qui est donc le deuxième producteur d'énergie électrique par voie éolienne. Si cette énergie est si coûteuse, comment se fait-il que la Chine, qui est connue quand même pour sa productivité, rentabilité, se lance dans une énergie qui semble si coûteuse ? Michel Combarnous.
Bon, d'abord, la Chine, je crois que c'est vraiment le cas typique de, si la consommation mondiale par habitant est la même, celle par habitant chinois augmente quand même assez considérablement. Donc, c'est pas pour rien qu'on a l'habitude de dire, au fond, toutes les semaines, ils inaugurent une centrale de quelque chose qui fait un millier de mégawatts ou 600, 700. Alors, ça peut être des centrales électriques au charbon, ça peut être à peu près n'importe quoi. Et là, on a cette dimension très puissante. Par exemple, je prends une anecdote, mais je crois qu'elle n'est pas tout à fait neutre. Si les Chinois importent du charbon d'Australie, c'est parce que leurs voies ferrées sont tellement encombrées par le charbon qui va de leurs mines, qui sont plutôt au centre du pays, pour aller vers Shanghai et compagnie, que finalement, il vaut mieux l'importer ailleurs. C'est la raison essentielle qu'ils donnent. Ce n'est pas une question de gagner des sous ou d'économiser des sous. Donc vraiment, il y a un boost sur l'énergie qui est absolument considérable. Dans ce contexte-là, on comprend bien que l'éolien, c'est aussi, hein, Gilbert Avocateur, il ne le disait pas comme ça, mais moi je parle autrement, mais c'est un peu panique à bord, quoi. Donc on utilise des éoliennes là-dessus. Et je crois qu'ils n'arrêteront pas les éoliennes quand ils seront arrivés dans d'autres dimensions, me semble-t-il.
Il y a un autre pays dont je crois que vous avez rapidement parlé, c'est l'Allemagne, qui lui a pour spécificité, ce pays, d'avoir développé son parc éolien et s'est rendu compte par la suite que finalement, là où ils avaient déposé leurs éoliennes, ce n'était pas forcément là où il y avait plus de vent. Alors, oui. Est-ce que, dit comme ça, ça prête à sourire, est-ce que justement c'est une inquiétude de savoir si là où on va installer des éoliennes, c'est le bon endroit et l'endroit le plus rentable ? Alors je ne sais pas, Gilbert Ruel ?
Bon, il est vrai que les Allemands ont mis tellement d'éoliennes partout qu'ils en ont mis trop à terre. Et ils en ont mis à terre dans des zones où il n'y a pas assez de vent, alors qu'il y a beaucoup de vent sur la mer du Nord. Alors le coefficient de performance, je crois qu'on l'appelle comme ça, c'est-à-dire le nombre d'heures d'équivalent pleine charge
par an, ou le facteur
par an,
de
charge. Le facteur de charge le meilleur qu'on connaisse, c'est au Maroc, je crois, où on arrive à 35, 0,35, chose comme ça. Ça veut dire qu'au Maroc, où il y a un bon vent dans le nord du Maroc, la production éolienne est équivalente. Elle est comme si les éoliennes fonctionnaient pendant 35% de l'année à pleine charge. Bon. En Allemagne, c'est 0,19, c'est 19% seulement. C'est 19%, pourquoi ? Parce qu'ils en ont mis à terre où il y a des endroits où ils ont 14%. Et en mer, sur la Baltique, sur la mer du Nord, ils en ont qui font 30%. Mais il y en a très peu en mer. Pour le moment, on parle beaucoup de l'éolien en mer, mais c'est du futur. Pour le moment, il y en a très peu. Ça, je crois que l'éolien en mer divisé par l'éolien global, ça doit représenter quelque chose comme 4%. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais bon. L'éolien à terre coûte à peu près 8 centimes d'euros par kilowattheure et l'éolien en mer, c'est entre 15 et 20. C'est pour ça qu'il n'y en a pas encore beaucoup et il pose beaucoup de problèmes. Des problèmes d'occupation de la mer parce que les marins, les ostréiculteurs, tout cela ne sont pas très heureux. Alors bon, on pourrait faire une émission spéciale sur l'éolien en mer, mais pour simplifier, bon, l'éolien en mer, c'est aujourd'hui du futur. C'est un futur dont tout le monde parle, mais que personne n'a encore vraiment l'expérience. Et c'est un futur très coûteux. Alors ensuite, pour avoir de bons coefficients, il faut aller loin en mer. Et loin en mer, ça fait des lignes à tirer à terre de grande longueur. Les éoliennes en mer sont très intéressantes dans la mer du Nord, qui a des fonds plats sablonneux pendant très des kilomètres. Si vous allez le long de l'Atlantique et encore plus le long de la Méditerranée, vous avez des chutes abruptes, des profondeurs, et vous ne trouvez pas, en vous éloignant suffisamment pour les aspects esthétiques, etc., paysages, vous ne trouvez pas de possibilité d'implanter beaucoup d'éoliennes. Bon, en France, on peut en implanter dans la Manche, jusqu'à la Picardie, Normandie, tous ces coins-là. Et il y a des projets. Hein.
Des projets, mais qui ne sont pas forcément acceptés par...
Non. Il y a eu le projet de Velette. Oh, ben, non, bien sûr.
Michel Combarnous, est-ce que l'Allemagne a réussi à rattraper un peu sa productivité en matière d'énergie éolienne ? Elle a réussi à rattraper ses exploitations de parcs éoliens ?
Bon, je crois que ce que disait Gilbert Ruel est tout à fait exact. Alors, c'est vrai que maintenant, les gens qui s'investissent un petit peu intellectuellement et dans la définition de projet en Allemagne sont polarisés sur un schéma plus large, qui est ce fameux projet qu'on appelle Desertec, là, qui consiste à utiliser l'énergie au sud de la Méditerranée avec le solaire thermodynamique, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les promoteurs de ce projet, quand on voit les documents qu'ils produisent, on retrouve cette Manche et cette mer du Nord comme production éolienne. On trouve pour la production hydraulique le nord de l'Europe, hein, le Danemark, etc. Puis un petit peu des Alpes quand même, mais beaucoup plus là. Et puis après, on va trouver le solaire thermodynamique au sud. Avec des liaisons, et finalement, là, c'est vrai que ça augmente un petit peu le coût de l'énergie, mais des liaisons en courant continu entre tous ces beaux pays, de la même manière qu'on a mis des gazoducs qui font le tour de la Méditerranée maintenant un petit peu partout, à travers la Sicile, etc. Donc ça, c'est un schéma un peu global. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que ça préfigure pour les prochaines décennies ou le prochain demi-siècle. Mais je crois que c'est un schéma qui est tout à fait intéressant et qui est complètement différent, je le dis, parce que souvent on dit « oui, mais enfin, finalement, ces pays du Nord vont continuer à piller les pays du Sud avec leur soleil, etc. » À grande différence près que quand vous prenez du pétrole, il n'y en a plus, quand il est tout pris, le solaire, vous l'aurez toujours, tous les jours. C'est une question d'organisation différente. Donc je crois beaucoup à cet éolien dans le Sud.
Alors dans le Sud, justement, parlons-en.
Au solaire.
Solaire toute espèce, oui, tu as raison.
Thermodynamique.
Éolien dans le Nord.
Oui.
Voilà.
Oui.
Parlons justement de ces pays du Sud, la Tunisie, que vous connaissez bien, oui. Et le Maroc installent aussi des parcs éoliens, installent des éoliennes.
Alors sur la Tunisie, il y a des parcs éoliens, enfin des fermes éoliennes, pour utiliser l'expression un peu canonique parfois. Il y en a une qui tourne avec 32 éoliennes régulièrement, il y en a deux en construction, toujours au même endroit. C'est, je crois que Gilbert l'évoquait tout à l'heure, c'est le nord de la Tunisie, près de Bizerte, etc. C'est une zone entre la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale, où les vents sont quand même relativement forts et assez réguliers. Donc ça se met en place. Les projets marocains existent, hein, puisqu'on dit que souvent le Maroc, c'est celui qui est en tête dans les pays du Maghreb au niveau des éoliennes, déjà existantes. J'ai moins connaissance des parcs éoliens marocains, mais il y a des projets.
Gilbert Ruel, vous souhaitiez rajouter ?
Oui, ça me fait penser à un pays qui s'appelle la Mauritanie, qui serait le pays idéal pour implanter l'éolien et le solaire, parce qu'ils ont un vent alisé fort et régulier sur toute leur façade atlantique,
toute la côte, ouais.
Et ils ont du soleil. Eh bien, ce pays n'a en fait ni l'un ni l'autre, et quand vous regardez la consommation énergétique de la Mauritanie, vous apercevez que la production, c'est quoi ? C'est du bois qu'on brûle, c'est affolant. Elle est à 90% de thermique, c'est chaleur, ouais. Et puis cuisson des aliments, etc. Bon, ils n'ont pas beaucoup besoin de se chauffer, hein, naturellement, mais
c'est un peu affolant.
Voilà cette aberration. Hein.
Complète.
Parce que simplement, il manque d'argent, hein, puis c'est une énergie chère, mais alors ce serait le pays idéal pour implanter tout ça. Alors, j'ai lu avec attention ta vision 2200 que tu as présenté à l'Académie des sciences, Michel. Et bon, alors nos deux études, je dirais qu'elles sont pas du tout comparables, parce que l'analyse de Michel, il s'est projeté, c'est une vision dans deux siècles.
Nous avons consacré une émission à ce sujet.
Alors la motivation, c'est qu'il a voulu se débarrasser du paramètre pétrole et gaz, parce que il fait une hypothèse que je crois tout à fait valable, c'est que à cette époque-là, il y aura plus ni pétrole ni gaz. Donc n'en parlons plus.
Passons à autre chose.
Voilà. Alors, il développe une vision qui est un peu du genre 80% renouvelable, et puis le reste avec un peu de
charbon.
Nucléaire, encore un reste de charbon. Du charbon, on en a depuis toujours, et on en aura. Le charbon, il va franchir largement 3 siècles sans problème. Bon. Alors, dans cette analyse, j'ai trouvé quand même un grand oublié. Hein. C'est qu'en 2200, on ne peut tout de même pas dire que le nucléaire n'existera pas.
Je ne l'ai pas dit, d'ailleurs.
Oui, mais tu le passes sous silence. Hein. Or, moi, je pense au contraire qu'en 2200, il a toutes les chances d'être arrivé à des formes de nucléaire qu'aujourd'hui, on ne pratique pas. Vous savez qu'il y a des générations, mais on a quand même devant nous, à très peu de distance, vers 2050, la génération 4, qui va nous débarrasser du problème de la dépendance. Aujourd'hui, si on continuait à développer du nucléaire avec la génération 3, on peut dire sans trop se tromper qu'on a des réserves d'uranium pour une centaine d'années. Mais vous savez que dans l'uranium qu'on extrait du sol, il n'y a que 0,7% d'uranium-235. C'est le seul isotope qui sert aujourd'hui. Et 99,3% d'uranium-238 qui ne sert à rien aujourd'hui. Mais demain, avec la génération 4 à partir de 2050, on va utiliser le 238. Et même, alors à ce moment-là, de même le combustible qu'on dit usé, qui sort des centrales, qui contient 99,8% de 238 et 0,2 seulement, au lieu de 0,7 de 235, parce qu'il a été consommé,
va être exploité.
Il va servir de stock. Et là, à ce moment-là, il n'y aura plus de problème d'autonomie, parce qu'on va passer d'une visibilité de la centaine d'années à une visibilité des milliers d'années. Ensuite, Dans son papier à l'Académie des sciences, Michel, il parlait du futur nucléaire en parlant de la fusion. Moi, j'aime pas qu'on parle de la fusion parce que la fusion, c'est trop lointain. C'est pas du tout certain. La fusion, c'est un rêve. Mais on n'a pas besoin d'évoquer la fusion pour évoquer l'autonomie. L'autonomie, on l'a avec la génération 4, qui, elle, va arriver, à coup sûr, au milieu du siècle.
Michel Combarnous.
Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ai éliminé la fusion parce que la fusion, elle marchera peut-être. Mais quand on voit la montée en puissance du nucléaire classique par fission avec les premiers types de réacteurs, on a déjà 30-40 ans de mise au point, etc. etc. Donc je ne sais pas si on va jusqu'en 2200, mais oublions la fusion. Et je souscris tout à fait à ce que dit Gilbert sur effectivement les évolutions nucléaires. Je ne l'ai pas mentionné explicitement dans mon topo, mais c'était sous-entendu, parce que comme il l'a rappelé, l'uranium est utilisé tel qu'il est utilisé maintenant, on va se retrouver très vite avec un problème analogue à celui du pétrole et du gaz. Et donc de ce côté-là, ça je suis absolument d'accord avec toi, c'est ça qu'il faut jouer. La fusion, on verra plus tard.
Donc à court terme, on imagine un profil avec de l'énergie nucléaire,
exact.
Et puis l'énergie...
Des renouvelables.
Renouvelables.
Hydrauliques.
Les renouvelables sont un excellent complément au nucléaire.
Ouais, ouais,
mais il ne faut pas vouloir remplacer du nucléaire par du renouvelable. Alors là, on est dans la stupidité.
Et alors, la dernière chose qu'il reste à faire, c'est bien sûr essayer de stocker cette énergie, qu'elle soit renouvelable, qu'elle soit nucléaire. Alors là, quelles sont les hypothèses ?
Moi, je suis très pessimiste sur le stockage. Le stockage, il est admis que l'adoption à grande échelle des énergies intermittentes, puisque le solaire et l'éolien sont des énergies intermittentes, leur développement à grande échelle passe par le développement de moyens de stockage de l'électricité. C'est une nécessité. Mais à l'échelle de l'électrification des voitures, on peut stocker dans les batteries. Les batteries, bon, vous savez que les moyens de stockage, il n'y en a pas des centaines. Le plus puissant, c'est les STEP, c'est la station de transfert d'énergie par pompage. C'est un moyen indirect. On remonte de l'eau, on la descend, on la pompe pour la turbine. Bon, très bien. C'est un moyen qui est limité par le relief. Par l'acceptation. Aujourd'hui, alors qu'on a un parc de production d'énergie qui dépasse 100 gigawatts, on a un parc de STEP qui n'est que de 3 gigawatts. C'est un peu faible pour réguler tout l'éolien et le photovoltaïque dont certains pensent qu'ils viendront en 2020 ou 2030. C'est un peu faible et on n'a plus de place pour en faire. Bon, alors derrière, en seconde, dans les moyens de stockage, vient quoi ? Vient les batteries. Bon, je passe sur l'air comprimé, c'est pas... Bon. Alors, les batteries... C'est à l'échelle des voitures, peut-être. C'est juste à la limite, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas encore. Mais enfin, avec encore un petit peu de progrès, on va y arriver. Bon, aujourd'hui, on a des batteries de 200 kg pour une autonomie de 200 km. C'est un peu lourd, quoi. Bon. Mais il n'y aura pas de... Alors, ce n'est pas à l'échelle des réseaux électriques, c'est à l'échelle des voitures. Mais à l'échelle des stockages nécessaires pour compenser les énergies intermittentes sur le réseau, ce n'est pas du tout à l'échelle. Et ça ne le sera jamais. Voilà pourquoi je suis pessimiste. Pourquoi ça ne le sera jamais ? Parce que le nombre d'Avogadro est trop petit.
Michel Combarnous, vous partagez l'avis de Gilbert Ruel ?
Oui, je dirais que c'est pas
en
de la
moins
même
pessimiste.
Manière, mais déjà, non, tout à fait. Parce que, bon, d'abord, je ne suis pas un fanat des batteries non plus, pour la même raison, parce qu'il y a toujours des matériaux, de nous dire de choses. Que devient une ville comme Paris si tous les soirs, rentrant les gens chez eux, rechargent toutes leurs voitures ? C'est une question qu'on peut se poser aussi, de manière un peu excessive peut-être. Qui est des véhicules électriques, bon, les camions de poubelle sont là pour le montrer dans beaucoup de pays du monde, ça c'est incontestable. Mais moi je crois, j'ai la même position, des fois un peu même frileuse peut-être, diraient certains, sur les biocarburants. Moi je crois beaucoup plus aux carburants liquides, avec des moteurs. Et c'est pas mon passage à l'insuffisance du pétrole, énergie nouvelle, qui me fait dire ça. Par contre, je vois beaucoup plus la transformation du charbon en combustible liquide. Donc ça, c'est ça que je vois. Pour en revenir à la question de stockage de l'énergie, qui reste effectivement un problème assez important, et je ne suis peut-être pas aussi pessimiste que Gilbert, mais il n'est pas vraiment, quand il dit ça, c'est un peu une coquetterie, mais je crois qu'il va falloir arriver à des choses complètement délocalisées. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque dans le sud tunisien, le stockage, c'est quoi ? C'est fabriquer de l'eau, dessaler de l'eau, c'est pomper de l'eau et la stocker, parce que finalement, on peut pomper de l'eau n'importe quand on a un peu trop d'électricité qui traîne et on la stocke. Alors évidemment, un stockage d'eau, c'est un certain volume. Je ne suis pas en train de parler de lacs amont et aval, comme il l'évoquait tout à l'heure. Mais on a des sortes de palliatifs. C'est vrai que l'électricité, c'est quelque chose de merveilleux, mais qui a un mauvais goût de ne pas vouloir se stocker facilement. Quoi. Ça, c'est clair.
Ce que tu n'évoques, ce n'est pas du stockage. Si on dessale de l'eau de mer, on n'a pas le retour inverse.
Ah non,
ah, bah
tu as raison,
mais...
tout à fait.
Alors, ça permet d'utiliser de l'énergie électrique qu'on a en trop
Ça écrète les consommations, les productions d'électricité.
Mais quand on manque d'électricité, on ne peut pas la sortir de,
y a que les lacs.
De l'eau dessalée. Hein. Bon, alors c'est pourquoi je suis pessimiste. Alors, peut-être je peux expliquer quand même, parce que, quand je dis que l'Avogadro est trop petit, parce que si quelqu'un écoute cette émission, il ne va pas comprendre immédiatement. C'est que, vous savez, le nombre d'Avogadro, c'est le nombre de molécules réelles, ou d'atomes réels, contenu dans ce qu'on appelle une molécule gramme ou bien une mole. Hein. Bon. Et c'est un nombre énorme, mais il est encore bien trop petit parce que les batteries, c'est des phénomènes électrochimiques. Les phénomènes électrochimiques, ce sont quoi ? C'est des déplacements, des sauts d'électrons d'un orbite à l'autre. Or, l'énergie que vous pouvez manœuvrer en faisant sauter des électrons d'un orbite à l'autre, c'est quelques électronvolts, c'est très peu de choses. Alors, il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'atomes, de molécules.
De sauts,
dans,
oui,
voilà, beaucoup plus d'atomes réels dans une mole, c'est-à-dire dans un volume donné, dans une unité de masse. Il n'y a pas assez d'atomes réels dans une unité de masse pour que l'énergie qu'on peut tirer en faisant sauter des électrons d'un orbite à l'autre soit suffisante. Il y a là une limite intrinsèque de la physique.
Eh bien, je vous remercie à tous les deux. Nous devons terminer notre émission. Alors, nous avons élargi, du coup, cette émission aux batteries et autres énergies exploitables d'ici 2200. Alors, je rappelle le titre d'une émission qu'on a eu le plaisir d'enregistrer avec vous, Michel Combarnous, « Quelle énergie en 2200 ?» Et puis, je rappelle le titre du livret que vous avez édité, Gilbert Ruel, qui nous a servi d'ailleurs à préparer cette émission. 10 questions proposées par Gilbert Ruel, « L'éolien, l'énergie du 21e siècle ». Faut-il poser la question ? Est-ce qu'il manque un point d'interrogation ?
Il manque un point d'interrogation. Je l'avais écrit et il n'a pas été imprimé.
Ah, voilà. Oui. Mais écoutez, c'est dit, publié par l'Académie des technologies en 2008, il me semble. Merci à tous les deux et puis j'espère à bientôt alors pour discuter des prochaines énergies renouvelables. Merci.
Merci.
Bonsoir.